que la Suisse a décidé d'envahir la France. Ça va trop mal ici. Voilà, c'est toujours un plaisir de se retrouver entre compatriotes. Je parle bien sûr de Gilbert. C'est ça, hein, Gilbert ? Ouais. Moi, c'est Laurent. Hein. Je n'ai pas oublié. Eh bien, le Seigneur a vraiment débroussaillé, préparé ce message. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à ajouter avec tout ce qu'on vient d'entendre au sujet de la foi. Mais c'est toujours encourageant pour un prédicateur de voir que le Seigneur lui ouvre, lui prépare le terrain. Ben voilà, on va ouvrir l'Écriture. Et j'aimerais lire un texte qu'on a lu il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est Michel qui nous l'avait cité. C'est dans l'Épître aux Hébreux. Ce texte servira de point de départ de cette méditation. Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il serait préférable de traduire dans l'épreuve qui nous est proposée, une épreuve sportive. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie ou la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Les mots que nous venons de lire suggèrent une épreuve sportive. Courir, c'est du sport. Courir avec persévérance, c'est de l'endurance. Ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Un jour, j'ai demandé à un marathonien le secret de son goût pour courir ses 40 quelque chose, quelques kilomètres. Il m'a dit, parce que moi je pensais que c'était la respiration, la musculature, il m'a dit non, c'est le mental. On gagne un marathon avec le mental. Et de là à parler de mental, on pourrait parler de mentalité, d'état d'esprit, de disposition de cœur. Il s'agit donc de courir une épreuve d'endurance en ayant éliminé tout ce qui pourrait nous freiner ou nous entraver. Il fait aussi mention d'un entraîneur, d'un modèle à imiter, Jésus, dont le record a été homologué et qui doit être, je parle du record, sinon battu, du moins imité. C'est ce que désigne l'auteur par l'expression traduite dans nos versions, la plupart de nos versions, par le chef et le consommateur de la foi. Moi, je le dirais autrement. Par exemple, je dirais qu'il est l'alpha et l'oméga de la foi. C'est consommateur, ça fait un peu manger, là, pourquoi ? Non, il est l'alpha et l'oméga de la foi. On aurait pu dire autrement, l'initiateur et l'achèvement accompli de la foi. Ou encore, le principe fondateur de la foi et sa démonstration probante, convaincante, accompli. Il faut donc bien parler de la foi de Jésus comme fondement et modèle de notre foi, comme point de départ et point d'arrivée. Je garderai ton départ et ton arrivée. Tiens, dit le Seigneur. La foi de Jésus. Nous avons besoin de la considérer sérieusement. Parce que dans le grand public, on a souvent fait de Jésus une espèce de héros hors limite, un peu, oui, désincarné, à qui tout était facile. Il savait tout d'avance. L'auteur de l'Épître nous invite à porter les regards sur Jésus, sur sa carrière. Là, il y a une carrière terrestre, où du début à la fin, Jésus a manifesté la foi dans son Père. Mais comment comprendre le mot « foi » ? Bien entendu, la première définition qui vient à l'esprit, c'est la confiance en Dieu, et nous l'avons entendu largement ce matin. Et c'est vrai, confiance en Dieu, dans sa parole, dans ses promesses. Après tout, les héros de la foi exposés au chapitre précédent, au chapitre 11, Jésus apparaît comme le plus grand, le plus accompli. Il est comme le couronnement de cette longue histoire que la Bible nous présente. Mais puisqu'il est un avec le Père, puisqu'il déclare, ça je vous cite Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, moi je suis », on peut dire aussi de Jésus qu'il est au fondement de cette lignée de témoins, de cette lignée d'hommes et de femmes de la foi. Il en est le fondement, l'inspirateur. Pierre le dit dans sa première lettre, « L'Esprit du Christ était à l'œuvre dans les prophètes ». Donc, il y a, quand on considère la foi de Jésus, il y a une antécédence qui remonte dès la création du monde. Et il y a une suite, une conclusion qui se manifeste à la croix, à la fin de son histoire terrestre. Jésus, celui qui fonde la foi et qui l'amène à son accomplissement. Le chef-d'œuvre de Jésus, c'est sa foi. Mais je voudrais vous proposer d'autres définitions de la foi. D'abord, il faut parler de la foi comme étant le contraire de quoi ? Non. Le contraire du péché. Le péché a toujours comme origine un manque de foi. Et il y a plusieurs textes bibliques qui peuvent venir à notre mémoire ici, par exemple le péché de Saül qui perd patience, il attend le prophète Samuel, Samuel est en retard, alors il commet l'irréparable. Il n'a pas eu confiance. Le premier péché dans la Bible, c'est celui d'Adam, bien entendu. Quel fut le péché d'Adam ? Dites-moi. Écouter sa femme ? Non, c'est pas ça. Le péché d'Adam, je ne verrai pas cela comme dans ce geste où il prend le fruit défendu, mais je verrai ça comme un manque de confiance absolue dans l'amour de son Père créateur. Tout part de là. Nous savons qui est l'inspirateur de ce manque de foi. L'adversaire, Dieu a-t-il vraiment dit ça ? Autrement dit, vous aime-t-il vraiment ? Et Adam a accueilli cette graine, cette peste de graines du doute, du manque de foi j'allais presque dire de non-foi. Le doute l'a fait se positionner en rival de Dieu. Voilà le péché d'Adam. Un Dieu qui, selon l'adversaire, aurait posé des limites à sa rivalité mimétique. Cette expression est du philosophe René Girard. Elle définit bien ce que c'est que le péché racine. Le péché est la racine de tout. Une rivalité mimétique. Vous serez comme Dieu. Le salut de l'humanité réside dans le retour au fondement de la foi, de l'obéissance de la foi. Et c'est le but de l'Évangile. C'est ce que Paul dit. Il a été appelé par le Seigneur et établi prédicateur et apôtre pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens dont vous êtes aussi à Kevin, à Rome et ailleurs. Obéissance de la foi. Non pas obéissance par crainte du châtiment. Non pas obéissance par intérêt, mais par amour. D'ailleurs, cette foi dont je voudrais vous parler est très proche du concept d'amour. Jésus a construit sa vie terrestre sur ce fondement de la confiance totale dans son Père bien-aimé. Ainsi pouvons-nous comprendre que la foi de Jésus fonde la nôtre. Le bénéfice de la foi de Jésus s'étend à celles et ceux qui se confient en lui. Vous savez que la foi, le mot foi ouvre un champ sémantique vaste, hein, qui va de la confiance à la finance, à la fiduciaire, aux fiançailles et que sais-je. Le bénéfice de la foi de Jésus s'étend à ceux qui se confient en lui, celles et ceux qui se fondent sur sa foi. C'est pourquoi nous prions Dieu notre Père au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand nous disons cela, nous nous plaçons au bénéfice de la foi de Jésus, de la fidélité de Jésus. Dieu nous exauce à cause de la foi de Jésus, en laquelle nous plaçons notre foi. Mettre sa foi dans la foi de Jésus, c'est cela, avoir les regards fixés sur Jésus. Pas simplement sur sa personne, mais sur ce que cela représente comme situation devant Dieu. Juste encore un autre exemple biblique, Deutéronome 9, 23. Quand le Seigneur, à Kadesh Barnéa, vous a envoyé en disant « Montez, prendre possession du pays que je vous donne. » C'est merveilleux ça. Allez, on part à la conquête. C'est tout cuit. Il nous le donne. Eh bien non, vous vous êtes révoltés contre les ordres du Seigneur votre Dieu. Vous n'avez pas mis votre foi en lui. Écrit le Deutéronome. Vous n'avez pas écouté sa voix. Et ils ont tourné 40 ans dans le désert. Je me répéterai souvent dans cette prédication. Tant pis, c'est l'art de la pédagogie, paraît-il. Jésus est le fondement de la foi en ce qu'il a toujours fait la volonté de son Père. Il a toujours fait ce qui lui est agréable. Jean 8, 29, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et Jean ajoute, ayant entendu ces paroles, beaucoup de Juifs crurent en lui. Ah, ils ont reconnu là la qualité unique de la foi de Jésus. Jésus, je vais utiliser un autre mot, adhérer. Souvent, on pense que le mot adhérer, l'adhérence, est un mot un peu plus faible que croire. Mais il y a quand même quelque chose de vrai dans ce verbe adhérer. C'est coller. Coller complètement. Il collait totalement au Père. De telle sorte qu'on pourrait dire que Jésus est vraiment l'homme de la foi. Elle l'a conduit. Sa foi l'a inspiré, ses paroles, ses gestes, ses prières. La foi de Jésus l'a soutenu, fortifié. Elle lui a fait déjouer les ruses du tentateur, venu le rencontrer au désert. Et là, d'ailleurs, nous sommes renvoyés au tout début de la Bible. Adam, dans un magnifique jardin, le tentateur qui s'approche, et Adam qui échoue complètement, qui manque le but, qui pêche. Tandis que Jésus est au désert, un affreux désert, après 40 jours de jeûne. Là aussi, le diable s'approche, mais Jésus résiste. Pourquoi résiste-t-il ? Parce qu'il adhère totalement à son Père, à la parole de son Père. Il colle au dessein de Dieu. Et il ne se laissera pas séparer. Séparer. C'est le terme même, c'est la signification même du terme du diable. C'est celui qui divise, qui sépare. Jésus ne se laisse pas séparer. Sa foi le fait coller à Dieu d'une manière indestructible. Alléluia. Nous bénéficions de cela. Nous sommes bénéficiaires de cette foi-fidélité de Jésus à son Père. Jésus a porté sa foi à la perfection en acceptant de boire la coupe du jugement, jugement qui nous était réservé, à nous les réprouvés, à nous les maudits par la loi, à nous les pécheurs. Jésus a accepté de recevoir en sa personne le salaire du péché, qui est la mort. Il l'a fait par la foi. Jésus est mort dans la foi qu'il ne serait pas abandonné à la corruption, mais qu'il se relèverait d'entre les morts par l'intervention du Père. Paul écrit, lettre aux Romains, chapitre 5, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. » Et là, on pourrait dire que Christ est mort dans la foi qu'un jour des multitudes croiraient et seraient sauvées. Pas seulement que le Père le délivrerait de la mort, mais qu'aussi vous et moi, un jour, répondrions à son appel. La foi de Jésus. Oui, sa mort sur la croix, c'est le plus grand acte de foi de l'histoire, comme le plus grand acte d'amour. On pourrait résumer tout ceci par une parole telle que « Moi, je suis le bon berger ». Bon, c'est pas sucre et miel. Bon, c'est seul fiable. Le seul vrai. Digne de confiance de la part de notre part. Nous pouvons lui faire confiance. C'est le bon berger, comme on trouve la bonne adresse ou le bon prénom. Je suis le seul vrai berger. Ou bien, je suis le vrai cep. Et là, ça concerne Dieu. Je suis le vrai cep. C'est-à-dire le cep qui ne déçoit pas le vigneron. Contrairement à la vigne Israël qui a trahi son auteur, Jésus ne trahira pas son Père. Dieu peut avoir confiance en son Fils. La foi de Jésus est telle qu'il peut le dire. Je suis le seul vrai cep, la vraie vigne, la vigne digne de sa confiance. Digne de la confiance de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a confié toute chose. il lui a remis tout jugement, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Voilà pour une première considération. La deuxième, ça va ? Oui, c'est bon ? Une deuxième façon de comprendre la foi, c'est le chemin. La foi comme chemin. Abraham, qu'on appelle le père des croyants, ne s'est-il pas mis en route par la foi ? Le chemin suivi par Jésus est sur les traces d'Abraham. Mais il va encore plus loin qu'Abraham. Dans le fait qu'il se donne lui-même pour nous sur la croix, sans qu'intervienne un ange du ciel pour l'épargner. Et là, vous avez tous compris qu'il y a un rappel de la ligature d'Isaac. La foi est un chemin de vie inauguré par Jésus, un chemin neuf. C'est peut-être ce que soulignent trois petits indices présents dans les évangiles. Il est né d'une femme vierge. Il est entré à Jérusalem sur un ânon sur lequel personne ne s'était jamais assis. Et ils sont deux des évangiles à pointer ce détail, Marc et Luc. Et puis son corps, ça c'est Jean qui le précise, fut déposé dans un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été déposé. Inauguration, quelque chose de neuf. Un chemin qui s'ouvre. Telle est la foi de Jésus. Il initie le chemin neuf de la foi et nous sommes appelés à le suivre. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 4, se trouve le récit de la guérison du fils d'un officier royal qui demande à Jésus de se déplacer chez lui pour guérir son fils mourant. Jésus n'y va pas. Mais il le renvoie en lui disant « Va, ton fils vit ». C'est un peu comme « Va voir là-bas si j'y suis ». Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se met en marche. Il est encore en chemin que des gens de chez lui viennent à sa rencontre pour lui dire « Ton fils vit ». Vérification faite. C'est à l'heure même où Jésus lui a dit « Ton fils vit » que l'enfant fut guéri. Et cet homme crut, lui et toute sa maison. J'en conclus qu'il faut parfois se mettre en route, se mettre à distance pour découvrir qu'on est précédé par le Seigneur. La foi grandit ainsi. Vous savez, les gens, les contemporains de Jésus, voulaient toujours l'avoir avec eux. Mais Jésus leur dit un jour, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Et mettre une distance. Jésus n'est pas à notre disposition. C'est nous qui sommes à sa disposition. D'accord ? Une autre façon de parler de la foi et d'en faire le nom même de l'Évangile, du message. Dans la lettre aux Romains, Paul dit, au chapitre 10, Paul définit l'Évangile comme la parole de la foi. C'est la parole de la foi, l'Évangile. Dans sa lettre aux Galates, il écrit, « Les églises de Judée avaient seulement entendu dire que celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » La foi, c'est l'Évangile. C'est le cœur, c'est l'âme de l'Évangile. L'Évangile apporte cette situation totalement nouvelle. La foi devient possible. Plus loin, dans le chapitre 3 des Galates, vient une question destinée aux Galates. « Dites-moi, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Donc Paul assimile l'Évangile à ce seul mot. C'est le trésor caché dans un champ. Et Paul va plus loin, encore dans cette même épître aux Galates, chapitre 3. La foi n'est plus seulement le nom de la prédication de l'Évangile, mais elle devient la venue d'un nouveau moment de l'histoire. Avant la venue de la foi, nous étions gardés en captivité sous la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi donc, la loi a été notre surveillant, notre pédagogue, jusqu'au Christ. Mais quand Christ vient, nous pouvons être enfin justifiés par la foi. La justification par la foi. C'est-à-dire, par l'ensemble de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jusqu'à ce moment historique de la venue de Jésus, mais après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce pédagogue de la loi. Le temps des tutelles et des médiations cléricales est terminé. C'est important de comprendre ça. Parce que la tentation est toujours grande, et cela surtout de la part des leaders religieux, de vouloir reprendre le dessus, reprendre le pouvoir, manipuler. Ah, ça fait tellement plaisir. Ce temps-là, il est fini. Nous ne sommes plus sous les médiations cléricales, quelles qu'elles soient. Nous vivons de la foi, et par la foi, nous vivons de l'Évangile. Dans ces textes, donc, foi et Évangile se confondent. Je n'ai pas encore parlé de la foi comme relation à Dieu, et j'allais dire que vous m'avez déjà précédé dans ce domaine. Dans vos prières, dans vos louanges, dans vos paroles d'encouragement. Relation à Dieu, quotidienne. La foi se vit exclusivement par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Je crois que c'est Christine qui nous l'a répété dans sa prière. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est-à-dire que nous nous plaçons devant Dieu en son nom, car lui seul nous justifie par sa foi, fidélité. Jésus nous justifie par sa foi, fidélité. Et ainsi, nous sommes invités à mettre notre foi dans sa foi. Vous comprenez ? Paul développe cette idée quand il écrit aux Galates, chapitre 2, « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Là, il n'est pas question d'une expérience mystique, ou spirituelle, ou émotionnelle. Il ne s'agit pas de ressentir. Il ne s'agit pas d'émotion, non. C'est sous le regard de Dieu que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sous le regard de Dieu. Dieu, quand nous le prions, accueille nos prières parce que c'est Jésus qui les lui présente. Quand je prie, Dieu exauce Jésus-Christ en qui je suis. Vous saisissez ? Il est très important de le comprendre. Non, la foi n'est pas un sentiment, une émotion, une expérience spirituelle. Non, c'est une situation totalement nouvelle. Un vrai cadeau du ciel. Voilà, vous êtes assis ? Oui ? Tenez-vous bien, hein ? Non, tenez-vous mieux. Vous êtes assis ? Eh bien, tenez-vous bien. C'est ça la bonne nouvelle. C'est le cadeau qui nous a été fait. Nous sommes en Jésus-Christ sous le regard de Dieu. C'est ça la foi. Et nous avons très fort le sentiment de nos indignités, n'est-ce pas ? Nous avons une faculté de culpabilisation très grande. Nous sommes toujours aux prises avec nous-mêmes, toute notre vie. Nous ne nous plaisons guère en nous-mêmes, si peu que l'on soit honnête avec soi-même. Et pourtant, d'une façon totalement indigne, Dieu nous accueille. Comme dit un auteur, nous sommes comme des enfants qui jouent dans de grasses prairies, dans une indignité tranquille. Ça va, vous êtes assis? Vous n'êtes pas tombé de vos chaises? Telle est la bonne nouvelle. Sous le regard de Dieu, cette situation nouvelle est un vrai cadeau. La foi consiste à saisir cela et à en rendre grâce. S'en réjouir. Réjouissez-vous. Ah bon, c'est tout. Non. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, car elle exprime le oui de Dieu sur nous. Dieu nous dit oui. Ouais. Nous étions dignes d'un non, mais ce non, Dieu l'a prononcé sur Jésus, à Golgotha. Dieu a fait une croix sur nous, sur Jésus. Le nom de Dieu a été prononcé, le nom N-O-N, hein. Maintenant, Dieu a dit oui. Dieu me dit oui. Il m'agrée. Il t'agrée. Qui que tu sois, quels que soient les sentiments ou les pensées qui se bousculent dans ta tête, Dieu t'a dit oui. Tu l'as exprimé cette fois dans le baptême. Il paraît que c'est Luther qui avait écrit sur son bureau « Je suis un baptisé ». Pour résister aux suggestions du diable qui était là toujours en train de l'assaillir, au point qu'un jour il lui a jeté l'encrier à la figure. Ça, c'est ce qu'on dit. Hein. Je sais pas si... Dieu m'a dit oui. Pour finir, il me faut parler de la foi comme d'une présence dans le monde. Dans l'évangile selon Luc, Jésus pose une question grave. Luc 18. Verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comprenons bien cette question. Des croyances, il en trouvera. Des religions, et même des guerres de religions, il en trouvera. Sans problème. Mais la foi, reflet de celle de Jésus, la foi qui persévère, comme celle de la veuve qui demande au juge que justice lui soit rendue contre sa partie adverse, car cette question de Jésus fait partie de cette petite parabole. Cette foi-là, la trouvera-t-il? Trouvera-t-il la foi comme celle de la terre et lumière du monde? Trouvera-t-il la foi comme présence freinant le libre déploiement du mystère de l'iniquité? Trouvera-t-il encore cette foi? La foi, trouvera-t-il la foi comme un combat spirituel contre les puissances chaotiques opposées au règne de Dieu? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, vous connaissez ce texte, mais contre les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore cette foi combative? Trouvera-t-il la foi qui donne à Dieu le droit d'intervenir chez les puissants de la terre? En réponse à la prière persévérante des croyants, c'est plus qu'un bulletin de vote. Nous allons voter bientôt. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Parce que plus ça change, plus c'est la même chose. Hein. C'est ce qu'on dit. Mais quand le peuple de Dieu prie, il donne à Dieu le droit de mettre son nez dans leurs affaires, de mettre son grain de sel, son grain de sable. Il peut s'opposer à l'arrivée de forces politiques néfastes. Bon, vous aurez tous compris à quoi je fais allusion. Dieu peut empêcher cela. Mais est-ce que nous prions pour ça? Il ne s'agit pas de militer au milieu des... Mais il s'agit d'être, d'occuper la situation qui nous est offerte. Nous sommes... Dieu nous a appelés à être ses interlocuteurs. Et moi, je dis, il faut vraiment que nous présentions à Dieu l'avenir de notre pays. Et puis, des nations, car il n'est pas seulement le Dieu de la France, il est aussi celui de la Suisse. Ouais, ouais. Et puis, de l'Afrique, de l'Asie et de partout. Roi des nations, qui ne te craindrait ? Hein ? Voilà, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Amen.